Ah bah je vais oublier cette fenêtre. Oui, bonjour, chères sœurs, chers frères. On est encore une fois amené à ouvrir la parole de l'Éternel ce matin. Et je voudrais, avant d'ouvrir la Bible, de demander au Seigneur de nous guider, de nous conduire par son Saint-Esprit, parce que c'est les choses spirituelles, on peut juste les comprendre par l'Esprit du Seigneur. Oui, Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour cette occasion que nous avons d'ouvrir ta parole, de vraiment nous réjouir de tout ce qu'on trouve dans ta parole pour nos âmes, pour nourrir nos âmes par ta parole nourrissante. Oui, Papa, nous savons que nous avons vraiment besoin que tu nous conduises, que tu nous guides par ton Saint-Esprit, pour qu'on comprenne les choses spirituelles encore une fois, et qu'on comprenne qui tu es, qu'on comprenne la profondeur, la largeur, la hauteur de ton amour pour nous. Oui, Papa, merci parce que tu nous as fait tous naître de nouveau en notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie pour les âmes qui n'ont pas connu ce bonheur de vraiment naître de nouveau par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, que ta parole encore puisse ce matin leur permettre de comprendre à quel point ton don est merveilleux en Jésus-Christ. Aide-nous à vraiment pouvoir venir en ta présence par la justice qui nous est imputée par le sacrifice de ton Fils, de notre Sauveur. Amen. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Job et on va se concentrer sur le premier et le deuxième chapitre du livre de Job. On a parlé la semaine dernière de la souffrance, ce n'est pas tout à fait le même sujet, mais on n'est pas loin, on est dans une épreuve, dans plusieurs épreuves auxquelles Job est soumis et que Dieu permet dans la vie de ce serviteur de l'Éternel. Et on va voir comment ce juste réagit devant les épreuves. Et on va voir comment on peut comprendre de ce qu'on a besoin pour vraiment épanouir notre foi, pour avoir vraiment une foi qui nous procure le salut. Une foi telle que la foi de ce juste, de Job. Si vous voulez ouvrir Job, chapitre 1er, on va lire d'abord les trois premiers versets, et ensuite le verset 6 à 12 du premier chapitre. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Et on voit ensuite ce qui se passe dans le ciel à propos de cet homme. Le verset 6. Or, les fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. La réponse de Satan. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? On voit en un seul jour tout ce qui appartient à cet homme richissime partir complètement. Les bœufs, les ânesses, les brebis, les chameaux, les serviteurs, ses fils et ses filles. Il ne lui reste rien, rien. Quelle est la réaction de Job devant ses malheurs, devant tous ces malheurs que l'Éternel a permis dans sa vie? Le chapitre 1er, le verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est extraordinaire. Et lisons le chapitre 2, verset 1er. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur, Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel. Ah, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main. Touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel entre de nouveau dans le jeu de Satan. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu, et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et on pourrait intituler le message exactement ainsi. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. C'est ces paroles de Job qu'on devrait retenir pour notre vie aujourd'hui. Et si c'est le cas, le but de cette matinée pour moi est accompli. Ce livre fut écrit dans les temps très anciens, dans les temps où il y avait peu ou même pas de révélation divine. Il n'existait pas toute la parole de Dieu, il n'existait pas le Pentateuch entier. On dit que ce livre a été écrit peut-être par Moïse ou en tout cas par un de ses contemporains. Donc en tout cas, Job n'avait pas accès à la révélation divine comme nous l'avons aujourd'hui. Et pourquoi j'affirme ceci? Parce qu'on lit dans le chapitre 42, verset 10, toujours le livre de Job, chapitre 42, verset 10, « Après toutes ces épreuves, l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. » Et si on va dans le verset 16 du chapitre 42, « Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jour. » Pour situer dans l'histoire le moment où Job vécut, on ne peut pas le situer avant le déluge, parce qu'avant le déluge, les gens vivaient plutôt dans les 900 ans. On n'aurait pas pu affirmer d'une personne qui a vécu encore 140 ans, qui a vécu avant, on ne sait pas combien, mais on nous dit le double, on peut s'imaginer que c'était dans les 70 ans peut-être. Donc environ 200 ans, on ne peut pas dire d'une personne à cette époque-là qu'il était âgé et rassasié de jour quand il avait 200 ans, puisqu'il y avait d'autres qui vivaient 900 ans à l'époque. Après le déluge, les gens vivaient de moins en moins. Au départ, dans les 250, 300 ans, jusqu'à l'époque de Moïse, où il était une exception déjà, et il a vécu 120 ans. Donc, à l'époque de Moïse, les gens vivaient moins. On peut situer donc Job quelque part entre Noé et Abraham, Moïse, ou même probablement entre Noé et Abraham. Parce qu'Abraham, lui, il vivait 137 ans et il était aussi considéré vieux pour son époque. Donc, probablement entre Noé et Abraham. On ne nous dit pas qu'il faisait exception de par son âge par rapport à ce qui était habituel à son époque, juste qu'il est mort âgé, rassasié des jours. Mais, chose plus extraordinaire encore, s'il était entre Noé et Abraham, il n'était certainement pas parti du peuple élu. Il n'avait pas l'élection d'Abraham, qui a été appelé l'ami de Dieu. Et pourtant, même Abraham lui-même n'a pas retenu à ce point l'attention de Dieu afin d'être signalé à Satan comme digne d'être éprouvé tel que Job le fut. Il a été éprouvé une fois, effectivement, Abraham, quand on lui a demandé de sacrifier son fils unique, et c'est une épreuve extraordinaire, mais Job, j'ose dire qu'il a été éprouvé encore plus. Il n'a non seulement perdu toutes ses filles, tous ses fils, tous ses serviteurs, tous ses biens. Il a même perdu sa santé. Il a tout perdu dans les épreuves. Donc il a été éprouvé plus qu'Abraham. On peut donc constater que le peuple de Dieu avait ce livre depuis probablement toujours. Et pourquoi ce livre a été donné au peuple élu? Peut-être même avant la révélation de la loi, ou en même temps que la loi. C'est tout simplement parce que Dieu voulait que le peuple élu, le peuple d'Israël, n'oublie jamais que ce n'est pas son élection qui les rend extraordinaires, c'est leur cœur, qu'ils sont appelés à avoir un cœur qui appartient en totalité à l'Éternel, comme c'est marqué dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Quand on regarde 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, on y voit, c'est affirmé, « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pas sur le peuple d'Israël, pas sur l'Église, seulement sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est entier, ou tout entier, à lui. » Et Job, n'étant pas quelqu'un du peuple d'Israël, était un gentil, a quand même reçu la grâce, la miséricorde de l'Éternel, parce que l'Éternel regarde sur toute la terre pour voir si un cœur d'un homme lui appartient en totalité. Et quand il regarde et retrouve un cœur comme ça, il va tout faire pour sauver son âme. Et on voit qu'il manquait quelque chose à la fois extraordinaire de Job, d'où ce besoin d'être éprouvé ainsi. Mais on y verra, on y arrivera plus tard. Ce qu'on voit d'abord, c'est que Job, il a une foi extraordinaire, de base. Une foi en Dieu, sans pareil, et une foi indépendante des circonstances. Certes, Dieu l'avait béni, mais l'amour de Job pour Dieu n'était pas conditionné par les bénédictions qu'il avait reçues. Quand il voit tout ce qui lui appartenait disparaître en un seul jour, il dit, le chapitre 1er, verset 21, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Il se souvient de tout ce qui est vrai pour tout être humain. On est sorti nu, puis on partira, on quittera ce monde avec notre âme, mais nu, sans les propriétés qu'on a acquises dans ce bas monde. Et il continue, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Il reconnaît donc le droit de l'Éternel de donner les bénédictions, mais de les ôter aussi, s'il le veut. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et le chapitre 2, verset 10, il affirme une chose encore plus extraordinaire. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal de la part de Dieu, si Dieu nous l'envoie. On voit que sa foi n'est pas fondée sur les bénédictions de l'Éternel ou sur les conditions que Jacob avait données à l'Éternel. Si tu fais ci, ça, 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 si tu me bénis partout où je vais, tu me donnes tout ce que j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, voilà, je te servirai. Il le sait sans condition, inconditionnellement. Il reste le serviteur de l'Éternel. C'est donc un homme sincère, sans reproche. Au départ, il jouit de tous les éléments du bonheur sur la terre. Il est béni matériellement. Il est béni dans sa famille. Il marche dans la crainte de l'Éternel. Et non seulement qu'il est béni dans tout ceci, mais il est même plus grand de tous les fils de l'Orient. Il était un milliardaire richissime. À l'époque, en plus, par rapport aux patriarches, vous savez, les patriarches étaient des pèlerins. Abraham, il est appelé, quitter son pays d'origine, qui n'était même pas le pays d'origine de ses pères, mais de quitter son pays d'origine pour aller au pays de Canaan. Et avec Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, ainsi de suite, ils étaient tous des pèlerins, tous les patriarches. Or, lui, il était quelqu'un qui était un homme du pays, un héritier du pays, un habitant de souche dans son pays, qui était un propriétaire foncier avec des biens fonciers extraordinaires. et qui était richissime comme tout. C'est sûr, Dieu bénissait les patriarches, mais ce qu'on voit en Job, c'est que tout en étant fidèle à ses promesses, il ne s'est jamais engagé à donner ses bénédictions, à réserver ses bénédictions uniquement dans la sphère des patriarches ou dans la sphère du peuple d'Israël. C'est ce que le livre de Job nous apprend, que la grâce de l'Éternel se plaît à être délivrée sur n'importe qui dans ce monde qui a le cœur lui appartenant en totalité. Cette grâce de l'Éternel n'a jamais été limitée aux promesses. Tout en accomplissant les promesses, la grâce maintient son droit de bénir au-delà de la limite du peuple d'Israël. Quoiqu'il n'appartenait pas aux promesses, Job, la grâce de Dieu s'est plu à le bénir. Et Dieu lui-même témoigne beaucoup de respect envers sa foi extraordinaire. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un autre personnage dans l'histoire. Il y a un ennemi de Dieu et de l'homme. Un ennemi qui ne connaît pas de repos et qui manifeste son agitation dans une activité malfaisante, sans relâche, qui veut toujours faire le mal. Et cet ennemi-là, on le voit jusqu'à un certain point, mais ensuite il disparaît dans le livre. Il disparaît après avoir été battu complètement. C'est un meurtrier, c'est un menteur. Et Dieu se sert d'un homme, de Job, son serviteur, afin de mettre au jour les pensées de l'adversaire et les désirs de Satan. Tout d'abord, Satan, on le voit faire lui-même le récit de son activité incessante. Ça et là, sur la terre, j'y vais, je regarde tout ce qui se passe sur la création. Il témoigne de son activité, des voyages qu'il accomplit sur la terre, son repos. Et là, Dieu trouve bon de lui signaler qu'il y a sur la terre quelque chose qui n'appartient point à Satan. Et donc il lui signale la présence de son serviteur Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Et là, c'est extraordinaire que Dieu ne dit pas qu'il était le plus élevé des fils de l'Orient. Il ne dit pas qu'il était richissime, qu'il avait des propriétés extraordinaires. Il s'en fiche complètement. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est son cœur. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, pas un homme riche ou pauvre. Peu importe, intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et là, que fait l'adversaire? Il constate que parce que Job était fidèle à l'Éternel, l'Éternel l'avait béni énormément. Et il se sert de la bénédiction divine pour insinuer une accusation. Il le dit ouvertement. Job ne craint pas Dieu sans raison. Hein. Il a des motifs égoïstes. C'est uniquement parce qu'il cherche les avantages de la marche avec le Seigneur qu'il craint Dieu et qu'il le suit. Il voit quels sont les avantages, il veut en recueillir les fruits, c'est pour ça qu'il fuit Dieu. Un esprit pervers comme celui de Satan ne pouvait pas concevoir quelque chose d'altruiste, mais juste quelque chose d'égoïste. Or, Dieu, il connaissait le cœur de son serviteur. Et c'est pour ça qu'il rend Il rentre dans ce jeu. Donc, l'adversaire lui dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. C'est donc la première épreuve que l'adversaire réserve, avec l'accord de Dieu, à Job. Il se sert sans regret de la permission divine d'agir sur les choses matérielles que Job possédait. Il touche à toutes les bénédictions de Dieu en un seul jour. Il est trop gourmand. Il n'attend même pas qu'un certain temps s'écoule. En un seul jour, il orchestre tout de la manière la plus cynique, la plus perfide. À chaque fois, il y a un survivant qui vient annoncer la nouvelle pour pas que la nouvelle tarde, pour pas qu'il laisse cette nouvelle un peu plus tard, pour qu'il puisse s'en remettre. Non, 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 tout de suite, un après l'autre. Ils viennent tous pour lui dire, il n'y a plus de troupeau, il n'y a plus de bœuf, il n'y a plus de chameau, il n'y a plus d'ânesse, il n'y a plus de brebis, il n'y a plus de serviteurs, il n'y a plus de fils, c'est tes fils. Le mal est consommé. Job n'a plus rien, mais rien de rien. Il était richissime, il est devenu pauvre, sans abri. Cependant, Job sentait que tout ceci était contrôlé par Dieu. Il ne comprenait pas pourquoi ça lui arrivait, mais il sentait que ça venait de Dieu, que Dieu l'avait permis. Et donc, il répond devant toute cette situation. Verset 20, chapitre 1er. Alors Job s'éleva, déchira son manteau. Il souffre énormément. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de nier la réalité de la souffrance. Rasa sa tête. Il est vraiment frustré. Il est abaissé complètement. Par contre, dans sa souffrance, qu'est-ce qu'il fait? Se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il n'a pas dit Dieu est injuste de faire ceci. Sa réaction, c'était tout simplement, il a le droit. Il est le souverain. Il m'a donné tout ceci. Il a le droit de monter tout ceci. Dieu savait d'avance comme ce juste allait réagir. Le premier assaut de l'ennemi avait complètement manqué la cible. Depuis et de tout, sans rien, Job ne pécha point. On aurait pu croire, on aurait pu s'attendre à ce que l'adversaire, maintenant, vienne s'allier avec l'Éternel. La foi extraordinaire de ce serviteur de, Jésus, de Dieu, qu'il revenait couvert de honte et se dire « Ah bah tiens, j'ai quand même un petit peu exagéré, hein. Là il n'a plus rien celui-ci, il manque de tout, il respecte toujours autant son Créateur, alors que moi j'ai agi entièrement à ma guise. » Et puis, le seul résultat, c'est que Dieu a été encore plus glorifié. Mais l'inique ne connaît pas la honte. L'Éternel lui adresse de nouvelles questions et met en avant, encore une fois, son serviteur Job. Ce n'est pas Satan qui amène Job dans la discussion, c'est toujours l'Éternel. Satan s'acharne, en revanche, contre ce juste, au lieu de reconnaître sa défaite. Il demande une nouvelle épreuve. Ça ne lui suffit pas. Le verset 4, chapitre 2. Satan répondit à l'Éternel. Hein, peau pour peau. On sait très bien que les humains, tant qu'ils ont la santé, y a encore l'espoir. On n'a pas touché à sa personne. Bien évidemment, tu ne m'as pas laissé faire. Effectivement, j'ai touché à tout ce qui lui appartenait, mais il est en pleine santé, il peut tout répondre à zéro. Et donc, il lui reste cet espoir-là. C'est pour ça qu'il continue de croire en toi. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et là, l'Éternel à nouveau, il rentre dans le jeu. Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. » Encore une fois, il le livre à Satan. Seulement, encore une fois, il y a une limite. Seulement, épargne sa vie. Et Satan n'attend pas une seconde invitation. Bien sûr. Il envoie de suite tous ses traits, toutes ses flèches envenimées. Dieu aurait pu permettre à Satan de toucher aussi à la vie de Job, mais seulement que s'il le lui avait permis, Job n'aurait pas eu toutes ces épreuves à telle profondeur, telle qu'on l'a vu. Satan ne s'en serait certainement pas privé de tuer Job immédiatement si Dieu le lui avait permis. Il ne s'en est pas privé de tuer ses fils et ses filles, ses serviteurs, ses brebis, ses ânes, ainsi de suite. Donc, il aurait touché à la vie de Job s'il avait eu la permission. Mais tel autre était le but de Dieu pour Job. Mourir, cela aurait été une fin rapide pour ses souffrances, mais il aurait, on verra tout de suite, il aurait manqué encore quelque chose à sa foi qui était extraordinaire. Et Dieu, quand il commence une œuvre dans la vie de quelqu'un, il va jusqu'au bout. Et c'est pour ça cette extraordinaire épreuve. On le verra plus tard, ce qui lui manquait à Job, qui avait une foi irréprochable en tout, qui avait un caractère irréprochable. Mais justement, c'est là qu'il y avait le piège. Dieu a préservé donc sa vie en permettant à l'ennemi de déchaîner ses traits contre lui. Car d'un côté, la mort de Job aurait empêché la démonstration de Dieu, cette démonstration qu'il voulait faire à ses enfants, que notre foi, la foi pure que Dieu attend de nous, c'est une foi qui ne dépend pas des bénédictions financières, qui ne dépend pas de notre santé physique. C'est une relation personnelle qu'on a avec le Créateur. Et quand on le connaît en profondeur, on n'est pas limité aux bénédictions pour l'aimer. On l'aime même en absence de bénédictions. On l'aime même en absence de la santé. Et c'est justement ce que Job a pu montrer par ses épreuves. Mais en plus, il voulait amener Job à un état de foi parfait. Parfaite. Ce qu'on peut conclure, c'est que malgré la présence du mal et de l'ennemi, malgré ces traits qui se déchaînent contre nous, rien ne peut empêcher le dessein de grâce et de bénédiction de l'Éternel pour les siens. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de Job par la suite. Quelles que soient les douleurs qui touchent les siens, la maladie, la pauvreté, la perte de l'emploi, la perte des proches, ainsi de suite, tout ceci sont seulement des circonstances sur le chemin. Mais toutes ces circonstances ne changent pas l'amour éternel de Dieu pour ses enfants. Aucune d'elles ne peut pas empêcher la grâce de l'Éternel envers nous et sa décision de nous sauver. Aucune circonstance ne peut empêcher que notre foi soit une foi vivante et qui grandit malgré l'épreuve ou dans l'épreuve. Et regardons la réaction de Job, quand son corps est recouvert de quoi? Un ulcère malin, c'est quoi? C'est finalement la lèpre, qui est le signe de la malédiction divine. Il se trouve, lui, qui a été fidèle à l'Éternel, dans toutes ses voies, qui n'avait rien à se reprocher, il se trouve sous la malédiction de l'Éternel. Il est seul avec sa femme. Plus aucun serviteur, aucun bien, plus de maison, plus rien. Seulement lui, sa femme, et leur pauvreté à tous les deux. Il n'a même pas de l'huile ou un baume pour soigner ses plaies. Comment il soigne ses plaies? Avec un tesson, et il est assis sur la cendre. Avec un bout de terre cuite, c'est tout ce qui lui restait. Gravement malade, sans aucun moyen de se soigner, il est en plus confronté à encore une épreuve extraordinaire. Il voit la défaillance de la foi de sa femme. Elle qui l'a accompagné dans sa grandeur, qui est toujours à ses côtés, maintenant qu'il est pauvre, mais qui ne comprend pas pourquoi tu restes fidèle. Je ne comprends absolument pas. Tu vois ce que ta fidélité envers l'Éternel t'amène. Pourquoi? Et c'est exactement ce qu'elle lui dit. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Et en effet, il maudissait Dieu. Il aurait été définitivement éloigné de Dieu. Et la mort aurait été certes un soulagement, mais il n'aurait pas pu avoir la vie éternelle avec Dieu. Maudit-le, cette épreuve finira ainsi plus vite. C'est exactement ce qu'elle lui dit. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas le mal aussi. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Satan n'avait plus aucune ressource. Job avait reconnu le droit de l'Éternel de lui donner toutes les bénédictions s'il le voulait, de lui ôter toutes les bénédictions s'il le voulait, de lui donner la santé s'il le voulait, de lui ôter la santé, de lui donner la maladie s'il le voulait. Malgré tout, il resterait fidèle à l'Éternel. Il connaît son Créateur. Et malgré tout, sa foi ne repose pas sur tout ceci. Sa foi repose sur cette connaissance qu'il a de Dieu, de son Créateur. Après cette réponse de Job, la femme de Job disparaît pour tout le livre. Mais non seulement la femme de Job, mais Satan disparaît aussi. Il est complètement vaincu, on n'entend plus un mot. Il est passé sous silence. Quelle immense consolation pour nous de savoir que Satan peut avoir peut-être des succès temporaires, mais qu'il n'aura jamais la victoire finale. Amen. Il peut avoir le dessus dans un combat, mais à la fin, il est vaincu. C'est Dieu seul qui connaît tout et qui accomplit tout ce qu'il s'est proposé. Et c'est exactement l'histoire de Job. Toutes les circonstances de la vie concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et à l'accomplissement du dessein de Dieu pour ses enfants. C'est ce qu'on peut retirer de cette histoire. Dans la vie des serviteurs de l'Éternel, Satan n'est pas une présence permanente, mais juste un bassin. Il peut effectivement intervenir pour donner des épreuves, des souffrances, mais il ne pourra pas avoir la victoire finale, il n'a pas le dernier mot. Mais après nous avoir montré à nous quel est le dessein de Dieu pour Satan, qui lui réserve peut-être des succès temporaires, mais une défaite éternelle, là, l'Éternel avait aussi une leçon pour Job. Et on va se concentrer sur cette leçon pour Job. Parce que Job, il avait effectivement une foi extraordinaire qu'on en vit tous. On voudrait tous pouvoir se dire un jour, mais malgré les circonstances, je reste attaché à l'Éternel. Quoi qu'il arrive, je reçois de l'Éternel, de la part de l'Éternel, le bien ou le mal, la santé ou la maladie, peu importe. L'essentiel, c'est ma relation avec lui. On voudrait tous avoir cette foi extraordinaire que Job avait. Mais on voit ensuite, dans la suite du livre, Job discuter avec ses camarades. Et on le voit qu'il est frustré, qu'il ne comprend pas une chose. Il reste concentré sur une seule réalité. Dieu, mon Créateur, il est parfait, il est juste, il est saint. Je connais, c'est sûr. Je n'ai pas de doute. Mais il me punit. Moi, son fidèle serviteur, je ne comprends rien. Pourquoi il le fait? Je suis confus. Qu'il permette que tout cela m'arrive à moi, alors que je n'ai rien à me reprocher, que je suis resté fidèle devant lui, ceci me fait souffrir davantage, plus que toutes mes souffrances en fait. C'est exactement ce qu'il va nous dire pendant 40 chapitres. Job. Toutes mes souffrances physiques, l'absence de mes biens matériaux, ça n'est rien devant le fait que Dieu m'a quitté. J'ai l'impression qu'il m'a quitté. Ses amis, ils étaient tous en train de lui dire une théorie sur Dieu, il est juste, il envoie ses bénédictions sur les justes, ses malédictions sur les injustes, les méchants sont tous punis, les gentils sont tous bénis. Ils essayaient de lui dire tous la même chose, et Job leur dit, il est obligé, de par son expérience, de tirer une conclusion différente. Moi, je suis fidèle, et il m'envoie tout ceci. Ça veut dire que non, c'est pas vrai. Et puis, regardez, il y a plein de pervers, de méchants, qui sont bénis autour de nous. Ben non, c'est pas comme ça. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est pas comme ça. Dieu, il est souverain, il est capable de tout, d'intervenir dans toute situation, et puis, ben non, il n'intervient pas. Et là, c'est ça le problème qu'il avait. Pourquoi Dieu ne voit pas? Il ne voit pas ce qui se passe, bien sûr qu'il le voit. Il ne peut pas intervenir, bien sûr qu'il peut. Mais alors pourquoi il ne le fait pas? Telle était la question de Job. Et Dieu aime trop son serviteur pour ne pas le pousser plus loin dans la foi. Et on voit que cette expérience, ces épreuves qu'il a permises dans sa vie, c'était pour que sa relation spéciale avec Dieu, avec le Créateur, puisse aller plus loin. Job s'attache à son intégrité, dont il avait conscience, jusqu'à ce que, par l'épreuve, Dieu le délivre de cette occupation égoïste. Parce qu'il s'était concentré sur sa justice. Il voulait venir devant l'Éternel avec sa propre justice à lui. Comment venir devant Dieu qui est trois fois saint avec notre propre justice, même si on est le plus juste de tous les gens? Dieu emploie donc cette épreuve afin de pouvoir le bénir encore davantage. Job doit renoncer à une chose, à cette fierté d'être juste, intègre devant Dieu. Oui, mais si tu es comme ça, tu n'as fait que ce que tu devais faire. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu va te recevoir en sa présence. Afin de pouvoir se réjouir pleinement de la relation avec son Créateur, il avait besoin, non pas de sa propre justice, mais de la justice de Dieu. Non pas de se confier en sa propre justice, mais de se confier en la justice qui vient de haut. Et c'est la justice qui nous a imputée à tous dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le Fils qui était seul, sans péché. Une fois qu'il a compris ceci, Job peut maintenant contempler pleinement la gloire de son Créateur. Et on le voit dans le chapitre 42, verset 5, qu'il dit exactement ceci. Chapitre 42, verset 5, du livre de Job. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Il voit l'Éternel, et là, il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi je me condamne, et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Ce qui manquait à la foi de Job, c'était justement cette condamnation de soi, cette repentance sans laquelle on ne peut pas aller devant l'Éternel. On ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi en Jésus-Christ, sans la foi en celui qui sauve. Il connaît maintenant à quel point la sainteté de Dieu est plus élevée que la sienne. Et il veut intégrer la justice et la sainteté de l'Éternel. Il conclut donc, « Je me répands sur la poussière et sur la cendre. » Mais on se dit, pourquoi ce juste, qui n'avait rien à se reprocher, avait lui aussi besoin d'être couvert de la justice de Dieu, et non pas de sa propre justice, ça ne suffit pas? Pourquoi pour recevoir la gloire de notre Sauveur, on a besoin vraiment de sa justice et pas de la nôtre? Tout simplement parce que lui aussi, il avait quelque chose à se reprocher quand même. Il n'était pas parfait comme Jésus-Christ. Et on le voit dans le chapitre 13, verset 26. Il l'affirme. Il en est conscient, mais il devait en être pleinement conscient pour pouvoir recevoir pleinement la grâce. Chapitre 13, verset 26 de Job. Pourquoi m'infligeais d'amère souffrance, me punir pour des fautes de jeunesse? On voit Job avoir quand même à se rappeler ses fautes de sa jeunesse. Seul Jésus-Christ a été son péché. C'est donc la justice de Christ dont Job avait besoin. C'est cette justice parfaite de Christ qui doit lui être imputée pour qu'il puisse pénétrer dans la présence de Dieu. Même lui. C'est cette justice de Christ dont nous avons besoin, nous aussi, et qui peut être nôtre par la foi en lui. Et on voit ceci en Romains, chapitre 3, verset 20 jusqu'au verset 24. Romains, l'épître aux Romains, chapitre 3, verset 20 jusqu'au 24. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Par la loi vient quoi? Pas la justice, mais la connaissance du péché. La justice vient autrement. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu. Et donc là, on voit comment cette justice nous est attribuée. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Point. Dieu ne pouvait pas faire une distinction pour Job, malgré sa justice extraordinaire, malgré sa foi, malgré sa droiture. Pourquoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu du fait de ses erreurs de jeunesse. Même Job, qui était maintenant parfait, peut-être. On doit le croire, Dieu le dit. Eh bien, même lui, il avait besoin d'être couvert du sang de Jésus, de la justice de Jésus, de sa rédemption. Le but des œuvres de la loi n'est pas de nous rendre la justice, mais de nous donner la conscience du péché. Seule la foi en Jésus-Christ a ce pouvoir de nous rendre la gloire de Dieu, dont le péché nous a tous privés. Et alors, pour résumer, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de la vie de Job? C'était certes quelqu'un d'extraordinaire qui avait une foi inébranlable. Toutes les circonstances de la vie ne pouvaient pas détruire sa foi. Il restait fidèle à l'Éternel dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé, dans la maladie. Mais il lui fallait encore une chose. S'appuyer non pas sur sa propre justice, mais sur la justice qui vient de haut, qui vient de l'Éternel, pour être amené à la gloire pour l'éternité. Qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement sur Satan, notre adversaire? Il ne peut pas déjouer les plans de l'Éternel pour ses élus. Il ne peut rien faire sans que Dieu le lui permette. À la fin, même s'il obtient des victoires temporaires, la victoire finale appartient à l'agneau de l'Éternel. Amen. Je vous invite donc de retenir cette affirmation de Job. Quoi ? Nous recevrons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? Restons quelques instants seuls avec l'Éternel, chacun avec son cœur, et gardons ceci en notre tête. Dieu, il a besoin d'un cœur tout entier à lui, de quelqu'un qui le sert, non pas pour les bénédictions matérielles, non pas pour la santé physique, mais qui le sert, quoi qu'il arrive, pour ce qu'il est. C'était exactement ce que Satan reprochait, essayait de reprocher à Job. Attention, il ne te sert pas pour ce que tu es, il te sert pour ce que tu lui as donné. Ah ben, il ne te sert pas, toujours pas pour ce que tu es, même si tu as tout retiré, il te sert parce que tu lui as donné la santé et que tu n'as pas retiré la santé. Et ben voilà, malgré tout, Dieu reste le même. Notre Créateur, notre Sauveur qui nous aime et qui nous aimera toujours et qui veut que nous soyons assis à la droite de son trône avec son agneau, notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse réfléchir 2 minutes et on va finir en prière. Oui, Père Céleste, nous avons encore une fois compris à quel point tu nous aimes, à quel point tu es un Dieu souverain. Tu peux permettre qu'il nous arrive des bénédictions, ou tu peux ôter les bénédictions de notre vie. Tu peux nous donner la santé, tu peux nous ôter la santé. Tu es souverain, tu peux faire tout ce qui contribue à notre bien. Et notre bien, Seigneur, on l'a tous compris, n'est pas d'avoir des bénédictions financières, n'est pas d'avoir la santé. On va tous mourir un jour, on va tous partir sans rien pour quitter ce monde nu comme nous sommes venus. Mais ce qui compte, c'est la foi qui grandit ou pas en notre cœur, qui est semée ou pas en notre cœur. Et c'est pour cette foi, ô Seigneur, que je veux te prier. Aujourd'hui, garde-nous la foi, ô Papa. Aide-nous à comprendre à quel point tu nous aimes, à quel point tu nous as aimés quand nous étions encore des pécheurs, que tu as donné ton Fils unique pour nous, pour nos péchés, pour que sa justice nous soit imputée, pour qu'on puisse venir devant toi en toute sécurité, pour qu'on puisse rester devant toi pour l'éternité. Oui, Papa, nous te remercions parce que tu accomplis en nous l'œuvre que tu as commencée. Quand tu commences une œuvre dans le cœur de quelqu'un, tu l'amènes au bout, malgré les épreuves, malgré les tentations, malgré l'intervention de l'ennemi. Et tu es le Dieu souverain, et on l'a vu encore une fois. Nous te remercions pour tout ceci et nous te demandons, au nom du Seigneur Jésus, de garder notre foi intacte jusqu'à ton retour. Amen.